Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième podcast de Prestart Button l'émission. Alors aujourd'hui nous sommes en compagnie de Xelan.
Bonjour.
De Technoboy.
Salut.
Ainsi que de Sabaka.
Rebonjour à tout le monde.
Et un invité spécial, connaisseur dans le sujet du podcast. Nous avons accueilli aujourd'hui avec nous en tant qu'invité Luigi Blood.
Bonjour tout le monde.
Alors, le podcast de cette semaine est consacré au plus célèbre des plombiers du jeu vidéo. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, mais on va parler bien sûr de Mario, de toute son histoire, de tout ce qu'il a fait changer dans le monde du jeu vidéo, de tout ce qu'il a apporté. Alors, on va parler un petit peu de comment Mario est né. Ensuite, on va un petit peu décrire au fur et à mesure des jeux, tout ce qui a évolué, tout ce que ça a apporté. Et on va aussi parler de tous les jeux dans lesquels il est apparu, c'est-à-dire ce qu'on appelle des spin-offs, comme les Mario Party ou par exemple les Mario Kart ou Mario Tennis. Donc pour commencer, on va commencer par la naissance du concept Mario, du concept de la plateforme pure et dure que Mario est à ses débuts. Donc je pense que pour parler de ça, on va commencer avec notre invité Luigi Blood, qui va nous décrire un petit peu comment Mario est né.
Alors, Mario, au début, il s'appelait pas Mario parce que... Excuse-moi, c'est le track.
Ouais, pas de souci.
Au début, ils ont voulu faire un jeu du genre King Kong, mais les droits, ils n'ont pas pu les avoir. Alors, ils ont essayé de créer un jeu de ce genre, dont Jumpman, l'ancien nom de Mario, doit sauver Pauline de Donkey Kong.
Ok, donc c'était le jeu de plateforme avec les tonneaux qui défilaient et Mario devait monter tout en haut de l'écran, c'est ça?
C'est ça.
D'accord, et ensuite, donc il s'appelait Jumpman, tu dis, mais je crois qu'il n'était pas plombier au départ.
Oui, il était charpentier au début.
D'accord, et donc ça c'était en quelle année, Luigi Blood?
Alors, en 1900, j'ai oublié.
Alors, je crois que c'était en 1981.
Oui, 1981, c'est ça.
D'accord. Ok, donc ça c'était la courte naissance de Mario, donc le concept n'était pas du tout le même. Ensuite il y a eu un peu plus tard Mario Bros, d'où le concept était pareil dans les égouts de Brooklyn. Il n'y avait plus Donkey Kong, c'était vraiment le premier jeu dédié à Mario. Et donc c'était Mario Bros. Sabaka va nous parler un petit peu de ce que c'était.
Oui, alors Mario Bros, c'était un jeu inventé le vendredi, en 1983. Et chose amusante, c'est qu'il a été créé un vendredi 13. Et même si on est superstitieux et qu'on aurait cru que ça aurait été une chance, en tout cas, ça l'a bien porté loin, ce jeu.
D'accord.
Passons. Mario Bros, c'est un jeu où vous incarnez Mario, qui est cette fois un plombier, et donc un charpentier, qui sera accompagné de son frère Luigi, dans les égouts de Brooklyn, où il devra chasser des espèces de monstres, aussi appelés des hérisses, avec plusieurs plateformes et quatre tuyaux, un en haut à gauche, un en haut à droite, un en bas à gauche et un en bas à droite, d'où sortent les 10 monstres. Et on doit donc les éliminer en renversant et ensuite en leur fonçant dessus pour leur donner un espèce de coup de pied et les envoyant valdinguer pour finalement les éliminer pour de bon et remporter des points. C'était un jeu plutôt spécial puisque quand on partait vers la gauche, on réapparaissait vers la droite une fois les limites franchies et l'inverse était exactement possible. Donc ça faisait un jeu plutôt original, d'autant plus que l'ajout de son frère Luigi permettait de jouer en multijoueur.
D'accord. Donc Luigi était déjà là.
Oui, Luigi était déjà là. Et pour finir, ça mérite d'être précisé, il y a une espèce de mode spécial où l'on peut ramasser des pièces gratuitement. C'est un peu un mode bonus, si on peut le considérer comme ça.
J'ai une chose à dire sur ce mode-là.
Oui, vas-y, Xen.
En fait, ce mode bonus qu'on a dans Mario Bros, le tout premier, il est ensuite utilisé dans Mario Advance. C'est le mode Battle de Mario Advance.
D'accord.
On retrouve Mario Bros dans ce mode Battle. Jouable jusqu'à 4 d'ailleurs.
Si je ne me trompe pas, dans ce mode battle, on est à 2 et celui qui ramasse le plus de pièces est gagné, c'est ça?
Ouais, mais on peut aussi jouer jusqu'à 4.
Ah, jusqu'à 4, oui.
Oui, en reliant les Game Boy Advance.
Avec un câble Link?
Ouais, tout à fait.
Très bien.
Ok, alors je crois qu'on a un petit peu tout dit sur le sujet et là on va passer vraiment aux choses sérieuses avec le premier vrai jeu de plateforme Super Mario Bros. Sorti en 1985, et qui justement était le premier jeu Mario donc à intégrer vraiment le scrolling horizontal, le vrai jeu de plateforme pur et dur. pense que Luigi Blood pourrait nous en dire un petit bout là-dessus.
Alors, c'était bien du genre le tout premier jeu de plateforme du genre Mario, enfin de Mario. Et cette fois, il a une princesse à sauver et c'était la princesse Toadstool, son premier nom de Peach d'ailleurs. Avec bien entendu l'apparition des Bowser et des Toads et l'apparition de quelques nouveaux monstres, hein, comme les Goombas, ceux qu'on aplatisse, les Paragoombas aussi. Enfin, les Paragoombas, il n'y était pas. Non, c'est Paratroopa, plein d'autres monstres, qui certaines ont été repris de Mario Bros, notamment la tortue qui est le Koopatroopa. Et Mario, cette fois, il pouvait se servir des champignons pour grandir et un sort de feu pour tirer des boules de feu. Et chaque monde avait 4 niveaux. Les trois premiers, c'était des niveaux normaux. Et le quatrième était un château.
Ok. Je pense que peut-être Technoboy a un mot à dire sur ce premier, sur la difficulté qu'avait ce jeu.
En fait, j'ai pas trop testé ce jeu. J'ai pas pu.
D'accord.
J'ai pas pu trop étudier ce jeu.
Tu n'y as jamais joué. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose?
Oui, moi.
Vas-y, Xelan.
Faut parler surtout du gameplay qui est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on arrive avec une tout petite manette comme la manette de la NES à concentrer tout plein d'actions.
Okay.
C'est-à-dire qu'avec le bouton A, on saute, le bouton B permettait de lancer des boules de feu quand on utilisait une fleur de feu, et avec la croix, on se dirigeait. Donc c'était vraiment simple, mais ça marchait.
D'accord, ça va.
Et le nombre de niveaux était de 32. Et le défaut du jeu, en fait, ce qu'on lui reproche normalement, c'était de pas avoir de sauvegarde, mais ça allongeait la durée de vie d'un certain côté. Voilà.
Ok, Tabaka, tu as quelque chose à rajouter, non ?
Oui, j'avais quelque chose à rajouter, c'est à propos de la diversité des niveaux. Parce que si les niveaux de plateforme étaient tout le temps au sol et avec exactement les mêmes obstacles, ça ne serait pas très très varié. Du coup, les développeurs de Mario ont rajouté des niveaux différents, c'est-à-dire il y a par exemple des niveaux au sol comme le niveau classique du monde 1. Et des niveaux aériens, par exemple, où l'on saute sur des champignons géants qui permettent où il y a des monstres dessus, avec des plateformes différentes, des décors différents, enfin c'était très varié. Donc surtout à la fin d'un monde où on allait dans un espèce de château pour essayer de libérer Peach. Le problème étant que presque à chaque fois, il y a toujours un Toad qui nous dit que la princesse est dans un autre château, ce qui a donné lieu à une réplique culte bien connue sur le monde internet. Et franchement, il fallait bien entendu attendre le monde 8 pour enfin sauver la princesse et vaincre Bowser, pour de bon.
D'accord. Alors ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que Super Mario Bros. A quand même posé les bases de la plateforme. C'était sorti sur NES à l'époque, sur Nintendo Entertainment System. Et ça a quand même posé les bases. Et beaucoup de gens, de joueurs, se souviennent de jeux de 1, de par sa nouveauté, le fait qu'il apporte tellement de nouveautés dans le genre. Ce que je parle bien sûr de la musique par exemple, des musiques superbes. Le principe du saut millimétré pour arriver sur la bonne plateforme, un jeu extrêmement difficile, ce qu'on appelle les bonus, donc c'est-à-dire la fleur, le champignon qui fait grandir, etc., qui pouvait nous redonner un petit coup de boost si jamais on était en difficulté dans un niveau, enfin, des choses comme ça qui ont été reprises dans de nombreux jeux après. Donc je pense qu'il a vraiment posé les bases. Ensuite, il y a eu quelque chose d'un peu plus différent. C'était Super Mario Bros. 2. Alors, on va déjà parler du Super Mario Bros. 2 qu'on connaît, et après, on va expliquer pourquoi le Super Mario Bros. 2 qu'on connaît est différent de ceux que le Japon connaisse, de celui que le Japon connaisse. Donc, déjà, on va parler du Super Mario Bros. 2. Le concept était totalement différent. C'est-à-dire qu'on était vraiment pas exactement dans le même univers. On va expliquer pourquoi après. Donc déjà, les ennemis n'étaient pas les mêmes. Et le concept, on ne sautait pas sur les ennemis pour les éliminer. On devait plutôt leur lancer des objets. Alors, je pense que Luigi Blood va nous expliquer pourquoi ce concept est si différent. Et ensuite, va nous expliquer comment ça se fait que les Japonais n'ont pas eu le même Super Mario Bros. 2.
Alors, donc le Super Mario Bros. 2 que nous connaissons était en fait une conversion d'un autre jeu appelé Yumiko Jo Doki Doki Panic.
Mm-hmm.
qui était avec des personnages de Fuji TV apparemment.
D'accord.
Et qu'ils ont remplacé les persos par Mario, Luigi, la princesse et Toad. Et c'est à partir de cet épisode-là qu'on a eu droit au Mascas, au Shy Guy aussi, c'est les mêmes noms je crois. Donc voilà.
Ok. Par contre, j'ai une autre question. Donc c'est ce qui s'est passé en Europe. Donc c'est le Super Mario Bros 2 qu'on a eu. Mais le Super Mario Bros des Japonais, le deuxième opus des Japonais, c'est quoi exactement?
Alors le deuxième opus des Japonais, c'était en fait presque la même chose que Super Mario Bros 1, mais les niveaux beaucoup plus difficiles.
D'accord.
Et les niveaux étaient tellement difficiles qu'ils ont préféré de convertir le Doki Doki Panic en Super Mario Bros 2.
D'accord. Donc c'était un petit peu une version, on peut dire que c'était plutôt une version 1,5 qu'une version 2, ce qu'on appelle des versions 1,5. Mm. Ok, et cette version-là, est-ce qu'on l'a eu nous en France à un moment ou à un autre, en Europe?
Oui, on l'a eu dans Super Mario All-Star sur Super Nintendo, connu sous l'appellation Super Mario Bros. Zero Level.
D'accord, donc c'était sur Super Nintendo et Super Mario All-Star c'était une compilation, c'est ça?
C'est ça.
D'accord. Donc je pense qu'on a tout dit. Quelqu'un voulait réagir à propos de ce Super Mario Bros 2, de ces deux jeux?
Oui, moi.
Xelan?
Mario Bros 2, c'est un concept complètement différent, mais il y a aussi les Warp Zones qui ont été ajoutées à partir de potions que l'on pouvait déterrer dans le sol, en fait. On déterrait des légumes pour attaquer ses adversaires.
D'accord.
Et Super Mario Bros 2, The Lost Level, qu'on connaît en fait au Japon, a aussi été proposé en Europe... sur la chaîne Wii, en fait. D'accord. On pouvait le télécharger pendant quelques temps, il le proposait.
D'accord.
Un prix supérieur que les autres jeux NES, il était proposé. Oui.
D'accord. Sabaka?
Oui, en fait, Xelan m'a volé ma réplique, car en fait, c'est exactement ce que je voulais
D'accord.
dire. Mais en fait, il y a quand même un dernier truc que je voulais préciser, c'est que Luigi Blood a dit que The Lost Levels était disponible sur Super Mario All-Stars, qui était une compilation sur Super Nintendo. Mais il a oublié de préciser qu'il était aussi disponible sur Super Mario Bros. Deluxe.
D'accord, qui était sorti sur Game Boy Advance.
Sur Game Boy Color.
Ok. Sabaka, peux-tu nous expliquer le principe des Warp Zones, pour ceux qui ne connaissent pas?
Ah oui, alors les Warp Zones, ce sont des espèces de... Enfin, comment dire? On va commencer par le début. Warp Zone, à la traduction littérale, distorsion de temps, c'est, comment dire, un endroit spécial qui peut nous transporter dans des niveaux différents. C'est-à-dire, par exemple, dans le premier Super Mario Bros., la Warp Zone nous permettait de nous déplacer dans un niveau avancé, tandis que dans Super Mario Bros. 2 The Lost Levels, la Warp Zone nous permettait de prendre un niveau plus loin ou de prendre un niveau qu'on a déjà fait, qui peut nous faire reculer dans le jeu, ce qui était quand même des fois assez gênant. Mais c'était quand même une bonne astuce pour essayer de finir le jeu plus rapidement.
D'accord. Et donc ça, c'est apparu à partir de Super Mario Bros. 2. Ça n'y était pas dans le premier.
Si, je crois que
D'accord.
c'est.
D'accord. Ok. Donc maintenant, on va passer un petit peu plus vite sur deux opus qui étaient assez similaires, on va dire, dans le concept. C'était un petit peu le concept du premier Super Mario Bros., donc de la vraie plateforme pure et dure. Mais avec l'ajout de quelques nouveautés, on va parler de Super Mario Bros 3 et de Super Mario World. Alors on les a regroupés parce qu'ils sont assez similaires au niveau du gameplay et des possibilités de jeu. Luigi Blood, tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça a apporté, le Super Mario Bros 3 et le Super Mario World?
Alors c'est déjà les ajouts de nouveaux power-up.
Ok.
On rappelait aussi les costumes, hein. C'est plus des costumes qu'autre chose. Mm-hmm. Alors, en Super Mario Bros 3, il y avait quand même l'apparition de la carte, qui est aussi utilisée dans Super Mario World.
D'accord.
C'était aussi l'ajout de plusieurs sorties.
D'accord.
Parce que de temps en temps, on peut aussi récupérer... Dans Super Mario Bros 3, mm-hmm. il y avait une deuxième sortie sur le niveau 3 du jeu, permettant d'avoir une flûte.
D'accord.
Sur Super Mario World, c'est presque dans presque... quelques niveaux et le jeu Super Mario World fait quand même 96 sorties.
Ok.
Excusez-moi.
Oui.
Je peux. Oui. Alors dans Super Mario World, il y avait eu pas mal de trucs plutôt sympathiques d'ajout. C'est-à-dire par exemple les niveaux sont bien mieux modélisés et sont plus colorés qu'avant. On peut se déplacer à dos de Yoshi. ce qui nous permet d'aller plus vite, parfois de sauter plus haut, et ça permet même d'avaler les ennemis, donc c'est plutôt très sympathique. Et enfin, pour finir, il y avait deux sauts différents que Mario pouvait utiliser. Le premier saut qui était une sorte, de saut où il tournait sur lui-même et qui faisait mal aux ennemis, mais plus mal aux ennemis sur lesquels il tombait ou sur lesquels il essayait de heurter. Et le deuxième saut qui était exactement le même saut que l'on connaît depuis la première saga et
d'accord.
Le premier jeu.
Et Super Mario World, alors dans cette histoire, qu'est-ce qu'il a apporté ? Il y a eu un ajout d'un nouveau personnage, il me semble.
Yoshi.
Voilà, c'est exactement ça. On pouvait monter Yoshi, si je puis dire, pour aller un peu plus vite. Ouais. Mais Yoshi, est-ce que déjà Yoshi pouvait avaler des objets ou pas ? C'est ça la question que je me posais.
Oui.
Ok. Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter sur Super Mario World ou Super Mario Bros 3 ?
Oui.
Oui, vas-y.
Moi. Alors, il y a aussi plusieurs couleurs de Yoshi, dont un vert, un jaune, un rouge,
d'accord,
et un bleu. Et ils ont chacun leurs propres caractéristiques.
Okay.
Par exemple, le rouge, tout ce qu'il avale, il se transforme en... Quand on les recrase, ça donne
d'accord,
du feu. Encore, le bleu, tu avales une carapace, et ça lui donne
okay,
des ailes. Et c'est pareil pour la couleur des carapaces.
D'accord.
Alors, ça-là marche.
Alors, par contre,
ce que
j'aimerais préciser, c'est aussi le côté, pour Super Mario Bros. 3, le petit côté exploration qui a été rajouté. C'est-à-dire qu'on ne passait plus de niveau en niveau sans interruption. Il y avait un système de cartes sur lesquelles on devait un petit peu... se balader pour avoir accès au niveau, et donc forcément il y avait des raccourcis ou des choses comme ça, avec des petites haltes, avec des sortes de mini-jeux, des petits jeux de cartes ou de hasard, qui pouvaient nous rapporter des bonus supplémentaires. Donc c'était juste pour apporter ça, parce que ça a été repris après dans pas mal de jeux Mario, dont Mario Land, qu'on va parler maintenant, pour le 2. Donc on va parler un petit peu de la série des Super Mario Land sur Game Boy. Donc Sabaka, tu veux y aller ?
Oui, sans okay, problème, tout va bien. Alors, dans Super Mario Land, cette fois, on change un peu d'univers. Super Mario Land était un jeu qui était sorti sur Game Boy. Donc, on devait incarner encore une fois Mario, comme le titre l'indique. Et à la place de sauver la princesse Toadstool, alias Peach, on doit sauver la princesse Daisy, qui n'a cette fois pas été kidnappée par Bowser, mais par Tatanga, qui est un nouvel ennemi extraterrestre qui rajoute énormément d'ennemis qui sont complètement différents de ceux qu'on a toujours connus. Et cela change pas mal de choses quand même. Bien entendu, comme c'était un jeu sur Game Boy, les couleurs n'étaient pas encore vraiment très très nettes et forcément le jeu n'était pas vraiment très, voilà, on pouvait pas dire qu'il était vraiment très beau, très complet, mais il n'empêche que c'est le premier opus qui était sorti sur
d'accord,
portable.
D'accord, et pour Super Mario Land 2 ?
Là, désolé,
d'accord,
mais je n'ai pas eu.
Alors moi je vais parler un petit peu de Super Mario Land 2, qui en fait reprenait le principe de carte que je viens d'expliquer pour Super Mario Bros 3. Donc le même principe de petite carte où on choisissait ses niveaux, et il faut dire que ce jeu était très très bon. Moins bon qu'un Super Mario Bros 3 bien sûr, parce qu'on n'avait pas toutes les possibilités de costumes, mais on en avait quand même. Et il faut dire que les niveaux étaient très très bien, très très longs. Pour l'avoir fini, il y avait des boss super compliqués à battre, il fallait trouver toujours le point faible ou des choses comme ça. Et donc pour un jeu Game Boy... c'était vraiment, vraiment très, très bien. Donc, je pense que ça a apporté aussi pas mal à la série. Il n'y avait pas de grandes nouveautés, mais il y a eu des niveaux qui sont apparus. Il y a des niveaux assez charismatiques de la série, comme des niveaux avec des étoiles partout. Il y avait un niveau sans gravité, où on était sur la Lune. Enfin, bon, je me souviens de ça pêle-mêle, mais il faut dire que c'était vraiment très, très bien. Donc, voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire... sur la série des Super Mario Land.
Ouais, j'ai quelque chose à dire.
Vas-y, okay, Luigi Blood.
Alors, Super Mario Land 1, ce fut aussi le premier jeu à avoir Mario en shoot'em up aussi.
Oui. C'est vrai qu'on avait des phases un petit peu de shoot sous l'eau, c'est ça ?
Sous l'eau et aussi dans les airs. Surtout pour
ah oui, le dernier niveau, justement, sans gravité, c'est ça ?
Non, c'était
d'accord,
dans les airs.
D'accord, ok. Vas-y, Sabaka.
Oui, alors, ça n'a aucun rapport avec le jeu, mais je pensais que ça devait mériter d'être signalé. À partir... Dès que Super Mario Land est sorti, on a commencé à faire une série de bandes dessinées avec pour sujet Super Mario Land, qui s'est bien entendu assez vite arrêté du fait du peu nombre de lecteurs. Mais je pense que ça méritait
d'accord,
tout de même d'être signalé.
Et ensuite, on va passer donc à ce qui a été considéré longtemps comme un des plus grands Mario, après la sortie de Super Mario Bros. 3, on a parlé de... Enfin, c'est pas vraiment Mario, mais c'est Yoshi Island. Alors, le Yoshi Island, pour le concept, on incarne Yoshi. Donc, il a été sous-titré Super Mario World 2, il me semble. Et donc, on incarne Yoshi avec sur le dos l'apparition du nouveau personnage qui va rester très très longtemps dans la série, jusqu'à nos jours, Baby Mario. Alors, Luigi Blood, tu peux nous expliquer un petit peu les nouveautés de ce jeu ?
Alors, ce jeu utilise le Super Pix 2, qui permet d'avoir des graphismes en cel-shading très
D'accord.
colorés.
D'accord, donc c'était le début du cel-shading, c'était vraiment novateur pour l'époque.
Mmh. Oui, ce fut aussi le premier jeu à avoir, aussi, à avoir Mario, les frères Mario en bébé.
Ok.
C'est un prologue.
Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais.
Oui, vas-y. Tu veux dire quelque chose ? Oui, c'est qu'ensuite, ce jeu a été adapté sur Game Boy Advance, puis sur Nintendo
D'accord.
DS, avec plusieurs ajouts différents.
Ok,
c'était
alors...
C'était resté longtemps.
Donc, personne n'a rien d'autre à dire sur Yoshi Island ?
Si, moi, j'ai des choses à rajouter
vas-y.
À propos de Yoshi Island. Yoshi se maniait complètement différent par rapport aux autres Mario
D'accord.
qu'on a vus. C'est-à-dire qu'il pouvait avaler ses adversaires pour s'en servir ensuite comme arme. Il pouvait avoir jusqu'à 6
D'accord.
derrière lui. Et il avait une capacité de saut supérieure
okay.
aux autres. Et l'attaque Rodeo pour
L'attaque Rodeo qui est revenue dans pas mal de Mario après.
Bah, dans Mario 64
D'accord.
notamment.
Excusez-moi, oui, l'attaque Rodeo. Au fil des jeux, il n'y avait plus que Yoshi qui savait la faire, mais à peu près tout le monde. Cette attaque a d'ailleurs été renommée en attaque Brisques.
D'accord. Ok. Xelan parlait de Mario 64 tout à l'heure. Et justement, on va passer donc à ce grand chef-d'œuvre. Mario 64 qui pour les fans est peut-être est resté longtemps le vraiment vraiment le meilleur Mario parce que c'était le passage à la 3D. Donc on peut souligner la prouesse des développeurs parce que c'était la première fois qu'un jeu 2D était aussi bien retranscrit en 3D, c'est-à-dire de partir de quelque chose d'assez linéaire en 2D et en faire quelque chose de complètement un univers complètement libre où on pouvait évoluer sans aucun problème. Et d'ailleurs, on peut aussi signaler que pour l'époque, Mario 64 ne possédait aucun problème de caméra, pratiquement aucun. Alors que les jeux de plateforme en 3D actuels, leur plus gros défaut, généralement, c'est les problèmes de caméra. Donc, je pense que Xelan avait joué à Mario 64.
Ah oui, Mario 64, en fait, c'est avant tout, comme tu l'as cité, la révolution graphique, la révolution dans le gameplay. C'est-à-dire qu'on a réussi à adapter le gameplay 2D au gameplay 3D, notamment par l'ajout de nouveaux mouvements. Par exemple, Mario peut effectuer des sauts plus longs, peut rebondir sur les murs aussi.
D'accord.
Oui, je peux... Voilà, parce
Vas-y.
Que j'ai quelque chose d'important à dire. C'est qu'il y a eu énormément de nouveautés. Et là, Xelan n'en a cité qu'un petit minimum. Enfin, d'après moi, à peu près le plus important. Mais il y a quand même beaucoup de choses à souligner. Comme par exemple, Mario pouvait se jeter en avant... Mario pouvait faire des acrobaties, il y avait énormément d'ennemis qui étaient ajoutés. C'était un jeu Adventure Feed où on pouvait se déplacer librement, comme je l'avais cité dans le dernier podcast que j'avais fait. C'est-à-dire qu'on peut choisir les niveaux librement, pas obligé d'en faire un pour passer
D'accord.
à l'autre. C'est-à-dire que si un niveau ne nous plaisait pas, on pouvait très bien en faire un autre, le temps d'en faire d'autres, et suite, et laisser celui qu'on n'aime pas de côté. Et ensuite, pour dire qu'il me semble qu'on pouvait jouer avec plusieurs personnages.
Ok, non,
pas dans Mario 64.
Ah non, j'ai quelque chose à dire aussi.
C'est dans son adaptation DS.
Ah,
alors, moi,
ce que...
Vas-y.
J'ai quelque chose à dire. Alors, avant, il y avait aussi, grâce au Super FX 2, il était prévu aussi d'avoir un Mario en 3D sur la Super Nintendo, qui a finalement été abandonné plus tard. Et cependant, ces idées de ce Mario-là ont été utilisées
D'accord.
dans Mario 64.
Alors moi, ce que je voudrais signaler aussi, c'est que Mario 64 est le dernier Mario à avoir accompagné la sortie d'une console. Je m'explique. Par exemple, à la sortie de la NES, on a eu le droit à Super Mario Bros. Ensuite, à la sortie de la Super NES, on a eu le droit à Super Mario Bros. À Super Mario World, il me semble, ou Super Mario Bros. 3. Pour la sortie de la Game Boy, on avait le droit aussi au premier Super Mario Land. Et donc, pour la sortie de la Nintendo 64, on avait le droit à Mario 64. Et ce fut le dernier Mario à avoir accompagné la sortie d'une console Nintendo. Parce que Mario Sunshine et les Mario qui ont suivi se sont faits bien après la sortie des consoles sur lesquelles ils tournaient. Donc je pense que c'était important à signaler vu le statut de mascotte de Nintendo qu'a Mario. Donc
oui, je peux parce que il n'y a pas eu que Super Mario 64 qui a accompagné la Nintendo 64 lors de sa sortie. Il y avait eu un deuxième pack, certes un petit peu plus tard, mais qui accompagnait, qui était vraiment dans la période de sortie de la console. C'était un pack où on vendait la Nintendo 64 avec le jeu Pokémon.
Oui, d'accord,
Stadium.
Mais je parle pour les jeux Mario.
Oui, uniquement pour les jeux Mario, mais bon. Je pense
que alors ensuite, plus... moi, ce que je voudrais vous poser une question à tous. Je ne sais pas si vous le savez. Alors Luigi Blood, je pense qu'il le sait, donc il va pas répondre tout de suite. Mais est-ce que quelqu'un connaît, moi je le sais, le nom de famille de Mario et de Luigi, qui sont frères? Vaca?
Pas du tout.
J'ai déjà entendu, non. Ça finit par E.
Alors je vais m'expliquer. Le nom de famille de Mario, c'est Mario. Et le nom de famille de Luigi, c'est Mario.
Voilà,
alors comment je le sais? En fait c'est simple, je vais dériver un petit peu sur un sujet hors jeu vidéo, mais qui concerne Mario. Je vais parler de Mario, Super Mario Bros, le film, qui est sorti en 92. Donc, où il y avait cette fameuse réplique, votre nom de famille, Mario, votre nom, Mario, et vous, Luigi, votre nom de famille, Mario. Et donc, c'était censé être une réplique comique. Bon, le film était un petit peu un raté, donc pour ceux qui l'ont vu, si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passait dans le film, comment ils ont retranscrit des événements dans le film. Sabaka, tu l'as vu le film?
Oui, mais ça fait extrêmement longtemps, alors moi j'ai du mal à m'en souvenir, je ne me souviens que de quelques
Luigi
passages encore.
Alors, ça
d'accord.
Fait très longtemps aussi.
Bon, alors pour expliquer, en fait, ils avaient repris juste, très rapidement pour expliquer, ils avaient repris le concept des champignons et plein de clins d'œil. Donc si vous avez l'occasion de le voir, moi je vous le conseille à tous, malgré que ce soit un film qui n'a pas eu un franc succès au box-office. Donc là-dessus, oui, là-dessus on va passer sur un sujet que Xelan maîtrise particulièrement. On va parler de la série Mario Kart, assez détaillée. Donc vas-y Xelan, tu peux y aller, tu peux te lâcher. Je sais que Xelan est vraiment très fan de cette série.
Alors, la série Mario Kart a débuté sur Super Nintendo, avec le jeu Super Mario Kart, donc qui impose toutes les bases de la série. Le principe était déjà tout simple. 8 personnages de l'univers de Nintendo s'affrontent sur des courses complètement dingues, avec des armes, alors des carapaces vertes, des bananes. Enfin, tout plein d'armes, en fait. Et donc, la série va être portée, en fait, sur chaque console Nintendo qui vont suivre. Alors, notamment, le plus grand opus, c'est celui de la Nintendo 64. Alors, celui-ci, c'est la révolution graphique. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre le jeu en 3D, tout en mettant des passages 2D. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, les petites fleurs que l'on voit dans un niveau qui s'appelle Autodrome Mario, d'ailleurs, un niveau qui a été conservé sur Wii, les petites fleurs que l'on voit sur le côté sont en 2D. Mais l'univers en lui-même est en 3D, donc c'est un avantage qui permet d'exploiter facilement la Nintendo 64 qui avait...
Il faudrait aussi parler du premier opus sorti sur Super NES qui utilisait le mode 7, Sabaka.
Oui, c'était juste pour préciser qu'il y avait déjà préalablement un ancien opus, le premier d'ailleurs, qui était sorti sur Super Nintendo, je crois. Et qui était aussi en même temps sorti sur bande d'arcade, avec un personnage bonus qui était en fait Pac-Man, car Namco avait participé au projet.
Technoboy, je crois, aussi connaît bien la série.
Ouais, un petit peu quand même. Je voudrais signaler, en fait, le premier opus était en 2D, si je me souviens bien, sur la SNES, non?
Exact.
Ouais, il était en 2D, et quand on retrouve quelques circuits, en fait, adaptés en 3D, si je me souviens bien encore, sur la version
D'accord, et
DS.
Aussi... Sur la version Wii, il me semble, Xelan.
Oui, tout à fait, oui. Il y a des niveaux qui ont été repris
d'accord.
Sur la version de Mario Kart.
Ok.
Dans les niveaux
Ensuite, il y a eu l'Opus GameCube, qui a rapporté quand même pas mal de nouveautés au niveau du copilote, Xelan.
Mario Kart Double Dash, c'est un opus un petit peu à part dans la série des Mario Kart. C'est-à-dire qu'on n'est plus à un seul dans un kart pour combattre, on est à deux. Alors forcément... Deux personnages, ça fait deux armes, donc ça augmente énormément le côté stratégique du jeu. Mario Kart Double Dash, c'est comme tous les Mario Kart, exception Mario Kart Wii, c'est une révolution graphique, hein, je me répète à ce niveau-là. C'est-à-dire que le jeu est très très beau avec des images de synthèse.
Ok.
Et un 3D très très propre. Tout le côté technique du jeu, c'est la possibilité, oui, de conserver deux armes. Ça signifie qu'on peut garder une arme pour se protéger. Et une arme que l'on utilisera plus tard pour attaquer. Donc,
et bien sûr, on retrouve tous les personnages de la série. Sabaka, tu voulais...
Désolé.
Et notamment quelques petits nouveaux, en fait, qui sont uniquement dans la série Mario Kart. On citera donc Toadette, qui a été présent uniquement dans Mario Kart Double Dash. Et Mario Kart Wii, donc c'est un personnage qui reste dans cet univers.
Et oui, mais il me semble que tu en as oublié un, c'est Baby Mario.
Baby Mario, il était déjà dans d'autres Mario précédents.
On en a parlé dans Super Mario World 2. Voilà.
Dans Yoshi Island.
Ouais, Yoshi Island.
Oui, mais je veux dire, dans la série des Mario Kart.
Oui, c'est en effet sa première apparition dans la série des.
Alors, il faut aussi préciser, j'ai oublié de le préciser, mais il faut préciser qu'à la base, Mario Kart, c'était juste une alternative à F-Zero, et je crois que Xelan a quelques infos là-dessus.
En fait, Mario Kart, à la base, ne devait pas s'appeler Mario Kart. C'était tout simplement, après le développement du jeu F-Zero, Nintendo cherchait à faire un jeu multijoueur. Ouais. F-Zero, c'était beaucoup trop rapide. Donc, ils ont commencé à développer le jeu avec un petit bonhomme noir, assez similaire à Game & Watch. Et un jour, ils ont eu l'idée, en fait, de remplacer ce petit bonhomme par Mario. Et cette histoire de faire un personnage plus consistant, voir si ça marchait graphiquement. Ils ont trouvé ça très fun, ils ont conservé cela. Donc, faut savoir, en fait, qu'à la base, Super Mario Kart, c'était une alternative à F-Zero en multijoueur.
Je tiens quand même à dire que la saga des Mario Kart a été particulièrement nombreuse. Il y a eu énormément de jeux. Si je les précise tous, ça serait le Mario Kart sur la borne d'arcade, le Mario Kart sur Super Nintendo, Mario Kart 64 sur Nintendo 64, Mario Kart Super Circuit sur Game Boy Advance, Mario Kart Double Dash sur GameCube, et Mario Kart Wii sur Nintendo Wii. Ça fait quand même pas mal. La saga Mario a vraiment réussi sur ce coup-là. C'était quand même une magnifique innovation, comment adapter l'univers des Mario à un univers de course. Au départ, pas du tout au gameplay de Mario, mais ça a vraiment été une énorme adaptation.
Et on peut dire aussi que c'était la création d'un nouveau genre, parce que Mario Kart était beaucoup copié, jamais égalé. Moi, je me souviens, on en a parlé dans le dernier podcast de Sonic Drift. Bon, c'était une merde, et donc c'était un petit peu la folie des Mario Kart-like. Et il y a eu Crash Team Racing qui reprenait l'univers de Crash Bandicoot, qui lui était plutôt réussi, mais qui n'égalera jamais un Mario Kart. Et on peut citer entre autres les produits dérivés de films tels que Shrek, Circuit, enfin je sais plus exactement le nom, enfin des boosts pas possibles qui essayaient de reprendre ce concept qui était un peu magique. Et mais c'était un petit peu du Mario Kart, mais sans la magie du Mario Kart, sans l'excitation. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans Mario Kart, il y a un truc qui est très très fort, c'est qu'on angoisse du début à la fin de son parcours. C'est-à-dire qu'on peut passer premier pendant tout le circuit, on peut être premier, puis au dernier moment se prendre une carapace bleue égarée et finir dernier. Et donc c'est là toute l'adrénaline et toute l'angoisse, quoi. C'est vraiment ce qui a fait la magie de la série. Et puis en multijoueur, c'est vraiment peut-être un des meilleurs jeux multijoueurs sur console Nintendo. Après, dans les spin-off Mario Kart comme ça, enfin pas vraiment des spin-off, mais dans les hors plateforme, on peut citer aussi tous les jeux de sport qu'il y a eu, comme par exemple Mario Golf, Mario Tennis, Mario Striker Charge, qui était un jeu de foot. Et bientôt donc Mario Baseball qui est censé arriver sur la Wii, si je ne m'abuse. Sabaka, tu en sais un petit peu plus donc que moi sur les Mario Tennis, etc.
C'est juste pour préciser que on a fait plusieurs jeux de sport en prenant exemple sur le Pro Kart qui avait été vraiment un franc succès. On a décidé de faire bien entendu dériver Mario sur d'autres sports. Seulement d'autres n'ont pas eu autant de succès les uns que les autres. Mario Kart a bien réussi. Cette année, on prévoit par exemple un opus où il fera du baseball. Il y a déjà eu aussi Mario qui faisait du basketball. Mario Golf qui a déjà été sorti.
Xelan, il me semble que tu as joué à Mario Striker Charge.
Oui, Mario Striker Charge, en fait, qui a été une série débutée sur Nintendo de GameCube, puis continuée et adaptée sur Wii. Donc le jeu, en fait, c'est un jeu de football complètement déglingué. Les armes sont similaires à celles de Mario Kart, c'est-à-dire qu'on retrouve les bananes, les carapaces rouges, mais il y a quelques innovations, par exemple la carapace bleue qui gèle. Mario Striker Charge.
Oui, vas-y.
Jouer en fait à Mario Striker Charge sur Wii avec le Nunchuck, je trouve ça vraiment convivial en fait. Surtout dans le multijoueur qui est très sympathique. On peut jouer avec les gens du monde entier.
D'accord. T'as bien aimé ce jeu-là. D'accord. Ok. Ouais, oui.
Je peux faire une remarque. Alors il y avait aussi le mode battle qui est sur Mario Kart, qui était vraiment, qui était vraiment pas mal, on va dire, auquel on devait se battre. Sur la Super Nintendo, c'était entre deux, mais depuis Mario Kart 64, après on pouvait jouer à 4 avec les, on devait okay. se battre en bataille de ballon. J'oubliais.
Okay.
On devait se battre avec les carapaces rouges et tout. C'est comme ça depuis tous les Mario Kart.
Ça a été ensuite mis en online, c'est-à-dire que le D'accord, battle bah c'est... de Mario Kart est en online. Et Mario Striker Charge, pour revenir à Mario Striker Charge, c'est le premier jeu online de la Wii. Donc c'est
D'accord.
encore un spin-off de Mario qui,
okay.
qui innove.
On peut dire aussi c'est que il y a eu Mario Golf, qui était vraiment un très bon jeu de golf, qui était vraiment très fun, mais pourtant qui n'a pas eu un gros succès. Parce que peut-être qu'il a été victime justement de tous ces spin-offs un petit peu nombreux, un petit peu hasardeux. Mario qui fait du basket, Mario qui fait ceci, Mario qui fait cela. Donc peut-être que aussi au bout d'un moment, les joueurs en ont eu marre de devoir toujours acheter un nouveau jeu à chaque fois qu'ils voulaient jouer à un sport différent à Mario. Donc est-ce que vous trouvez pas ça dommage qu'on n'ait pas eu plutôt un opus réunissant tous ces sports-là? Un petit peu comme l'a fait, ça me permet de faire une transition sur le très récent Sonic et Mario aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir une sorte de compile comme ça avec Mario? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple?
Oui, une sorte de Wii Sport en fait, avec tous les Mario, ça aurait été bien mieux en fait. Mais Mario Golf en fait, je pense qu'il n'a pas eu de succès, c'est un sport qui est
D'accord.
pas très connu, le golf, je veux dire, pas très apprécié par rapport à un Mario Football, ça peut pas rivaliser.
Ok.
Mais oui, Mario & Sonic aux Jeux Olympiques, c'est aussi une innovation.
Voilà,
c'est
alors
la guerre entre Nintendo et Sega qui se finit, quoi.
Voilà, donc, déjà que le Sonic était sorti à l'époque, on en a parlé aussi dans le dernier podcast sur qui sortait sur des consoles Nintendo. Là, c'était vraiment la consécration de l'amitié Sega Nintendo. Et en plus, dans un jeu qui est apparemment pas si mauvais qu'on aurait pu le penser. Surtout qu'en plus, c'est le jeu officiel des Jeux Olympiques de Pékin, donc c'est pas rien quand même. Donc dans un si grand jeu, voir deux mascottes et leurs univers, parce qu'il y a tous les personnages et tous leurs décors, enfin tout l'univers reproduit. Je sais que bon, sur DS, c'était pas terrible. Mais par contre, sur Wii, apparemment, c'est pas si mauvais.
Oui, sur Wii, le jeu est vraiment réussi. Hein. C'est un des meilleurs party games de la Wii. C'est au-dessus,
okay.
par exemple, du tout dernier Mario Party.
Oui, la version sur DS est pas terrible. Hein. Franchement, je trouve qu'ils ont pas assez utilisé
okay.
le concept de l'écran tactile, en fait, pour le jeu.
Maintenant, on va passer à d'autres spin-offs, mais alors là, réellement spin-off. On va parler de la série, déjà, de la série Wario, très rapidement. Et du seul jeu où on voyait uniquement Luigi en personnage principal, donc Luigi's Mansion. Donc déjà, on va parler de Wario Land et WarioWare. Donc qui veut prendre la parole au sujet de ces deux jeux?
Alors WarioWare, c'est un petit peu le concept de Mario Party adapté un petit peu, enfin légèrement sur les consoles portables. C'est une série mini-jeu en fait à la sauce Wario, hein, mm-hmm. assez diabolique en fait en quelque sorte. Et pour avoir testé la version sur DS, si je me souviens bien, oui. Ça se
okay.
déroule en plusieurs niveaux.
Wario Land, en fait, à la base, c'était un dérivé de Super Mario Land. C'était une version
D'accord.
en fait de Super Mario Land 2 avec la petite carte et tout. Donc Wario Land, oui, c'est le dérivé en fait. C'est le double maléfique qui a sa propre histoire complètement différente. Son but, c'est pas de sauver une princesse ou chose. Son but, c'est l'argent. Donc c'est une parodie de Mario parce que Mario, il est un petit peu rondouillard, il a un petit peu un gros nez. Wario
D'accord.
est gros, il a un gros nez rouge. Enfin, rose plutôt. Et
okay.
le W aussi.
Et donc, on va aussi parler un petit peu des Mario Party parce que je vois que c'est Technoboy qui a lancé le truc. Donc, Mario Party, le concept, c'était un jeu de plateau agrémenté de mini-jeux entre chaque tour dont le but était de récupérer le maximum d'étoiles sur le plateau de jeu qui était dispersé assez aléatoirement. Et donc on devait récupérer ses étoiles et celui qui en avait le plus à la fin gagnait. Et bien sûr il y avait un dé, enfin un système de déplacement un petit peu aléatoire. Et donc des mini-jeux très sympas. Donc le premier avait eu beaucoup de succès. Mais malheureusement il s'est dérivé en 6 ou 7 épisodes plus celui 8 plus celui de DS, voilà. Donc
8 même.
Au bout d'un moment ça devenait un peu répétitif, donc les Mario Party se sont pas tous bien vendus, étaient pas tous des bons jeux, mais on en a eu quelques-uns qui étaient sympas. Moi je cite l'épisode DS qui est assez agréable en multijoueur. Alors par contre c'est un jeu, il faut pas y jouer tout seul parce que sinon ça devient vite lassant. Mais en multijoueur c'est très très drôle et qui a aussi lui aussi été copié. Enfin copié. Il y a eu des Mario Party like comme un petit peu les Mario Kart like. Il y a eu Sonic Shuffle, je crois que voilà, qui était plutôt mauvais, enfin qui a été considéré comme mauvais alors qu'il y avait des petites idées qui ont été d'ailleurs reprises dans des Mario Party après. C'était globalement pas terrible. Je crois qu'il y a eu un party game aussi avec dans l'univers de Crash Bandicoot donc ça a aussi posé les bases du party game sur console. Donc comme quoi Mario ne fait pas que de la plateforme et surtout innove. C'est-à-dire que la série Mario, tout au long de son histoire, a amené de grandes innovations.
J'ai une chose à préciser sur la série Mario Party, c'est que tous les Mario Party ne se ressemblent pas forcément. Il y en a certains qui ont également innové. Alors on ne prend pas le premier comme exemple, c'est celui qui a posé les bases. Ça doit être Mario Party 6, où on a implanté en fait le système de micro pour tenter d'innover un petit peu et de rendre un petit peu du succès à la série. Et le tout dernier Mario Party sorti sur Wii, donc qui lui utilise le capteur de mouvement pour tenter d'innover un petit peu. À savoir que le jeu à la base avait été développé sur GameCube et qu'ils l'ont installé ensuite sur Wii.
Ok, d'accord.
Les mini-jeux se ressemblent.
Alors ensuite, oui, vas-y Sabaka.
Le premier.
Technoboy, excuse-moi. Vas-y Technoboy.
Je voudrais ajouter Mario Party en fait à l'époque, enfin le premier du nom hein, sur 64, c'était le jeu en fait des soirées entre amis, tout le monde y jouait en fait quasiment. Et ça a fait un gros succès, tellement, enfin, personnellement,
d'accord,
dans mon entourage.
Ouais, c'est vraiment un jeu exclusivement multijoueur, quoi. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir passer à Luigi's Mansion, donc qui était quand même le jeu qui a fait, je crois que c'était le jeu de lancement de la GameCube. Donc, quelqu'un voudrait parler de Luigi's Mansion? Quelqu'un y a joué? Vas-y, Sabaka.
D'accord. Alors, en fait, Luigi's Mansion, raconte l'histoire, c'est en fait le premier jeu où Luigi est totalement le héros. C'est-à-dire qu'il il a vraiment sa place, c'est lui carrément, c'est carrément à son tour de sauver quelqu'un. Et cette fois, ça ne sera pas de sauver la princesse Peach, ça sera cette fois de sauver Mario, son frère, qui a été emprisonné. L'histoire est en fait que il a gagné un manoir par un test de concours imaginaire, on ne sait même pas comment il a reçu le prix, avec un plan qui lui indique où est un manoir. Alors, quand il trouve ce manoir, il remarque que c'est en fait un vieux manoir tout délabré, et qu'il est surprise lorsqu'il découvre que c'est en...
À préciser, le manoir, il l'a
d'accord.
gagné. Dans l'histoire, le manoir, il l'a gagné.
Oui, c'est bien ce que je dis.
Ouais, c'est
mais quelle est sa surprise lorsqu'il découvre que le manoir est en fait habité de fantômes. Et en fait, il est surtout habité par les Boo. C'est le roi Boo qui a emprisonné Mario dans un tableau et on devra finalement aller le sauver à l'aide du professeur Catastrophe qui finalement nous donnera un espèce d'aspirateur qui s'appelle l'Ectoblast et qui permet d'aspirer des fantômes. Surtout les vrais fantômes, qui sont aussi appelés des fantômes mini-boss, qui sont eux à eux être transformés en tableaux pour finalement
d'accord.
décorer une espèce de
je crois que Luigi Blood je crois que Luigi Blood a une petite précision sur les jeux à avoir Luigi comme héros. D'accord, vas-y Sabaka.
Oui, excusez-moi, j'avais dit une grosse bêtise. Excusez-moi, c'est le deuxième jeu à avoir Luigi comme héros. Le premier étant Mario Is Missing. Le problème étant que ce jeu était plutôt, désolé de le dire, vraiment mauvais.
Alors maintenant, on va passer, pour rester dans la GameCube, à Mario Sunshine. Donc je crois que Xelan y a joué.
Bon, Mario Sunshine, c'est tout le temps, comme la série Mario, c'est tout le temps l'innovation.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que dans cet épisode, contrairement aux autres où c'était de la pure plateforme, on utilise en fait un système d'eau. En fait, Mario a une sorte de petite bonbonne d'eau dans le dos qui a pour nom Jet et qui lui permet en fait d'attaquer ses adversaires. Alors, en fait, dans l'histoire, il est accusé d'être responsable des problèmes dans la ville, dans l'île Delfino. Il va devoir tenter de régler en fait ses problèmes. Alors, il va devoir nettoyer en autres les rues de pollution, exact. Il va devoir donc tenter de nettoyer avant tout la ville,
et
donc de régler les problèmes.
D'accord. Globalement, qu'est-ce que ça a apporté dans la série, ça, ce jeu-là?
Globalement, c'est-à-dire que l'île Delfino, on le retrouve dans tout plein Mario Kart, dans Mario Kart Wii aussi. On le retrouve également dans Smash Bros. c'est-à-dire dans Smash Bros. Brawl, qui va bientôt sortir, qui est déjà sorti au Japon et aux États-Unis, il y a un niveau Indéfino. Alors ça n'a pas directement influencé
d'accord.
la série.
Ensuite,
Mario,
bon, l'opus a été quand même critiqué au niveau des problèmes de caméra, il me semble. Il me semble que la caméra bloquait beaucoup par rapport à Mario 64, qui était ouais. l'opus précédent au niveau plateforme 3D.
C'est exact.
Ok, et apparemment, donc, il y aurait Yoshi qui fera une apparition dans Mario Sunshine.
En fait, tout comme dans les Mario de la NES, on peut en fait enfin réutiliser Yoshi, donc il peut prendre les fruits.
D'accord.
Il lui sert en fait de jauge de vie et il peut attaquer en crachant du jus. Et pour débloquer Yoshi, en fait, on trouve des œufs de Yoshi et on doit lui apporter d'accord. le fruit, donc l'on trouve souvent dans l'île Delfino. Donc on lui apporte le fruit qui lui correspond, et on va le monter, donc comme dans les Mario Bros anciens.
On va faire une courte halte sur les RPG Mario. Les Mario avec un côté RPG. Je crois que Ludie Blood pourra nous en dire beaucoup plus.
Le premier Mario RPG fut sorti sur Super Nintendo avec
d'accord.
le nom Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Qui a pour traduction la légende des 7 étoiles. Alors c'est un RPG créé par Square, qui est au niveau
entre
RPG,
autres.
Vous savez, celui le créateur des Final Fantasy, entre autres, oui. Et on trouve des personnages qui n'ont rien à voir avec le jeu, mais pourtant ils ont un rapport avec l'histoire. Donc j'en cite deux. Ces deux-là sont Mallow et Gino. Gino
ok. Tu peux aussi parler de Paper Mario un petit peu.
Alors Paper Mario, son nom temporaire, ce fut été Super Mario RPG 2. Hein. Donc ce fut un bon RPG.
Ok. Et c'était un jeu.
Système, je crois.
Il est sorti sur Nintendo 64.
Et la plupart des personnages étaient
okay.
en 2D comme si
donc,
c'était de la papier.
C'était en 2D, c'était des graphismes
de
papier.
Et il y a un système de combat.
Donc
ce qui
paraît, ces jeux sont considérés comme des jeux plutôt bons. Et récemment, on a eu aussi déjà le Mario RPG de la Wii, il me semble, et aussi le Paper Mario de la Wii plutôt. Et le Mario RPG sur DS qui s'appelle Mario et Luigi Partner in Time. Donc le Mario et Luigi Partner in Time qui est un jeu assez bon. C'est un RPG, semi-plateforme, un petit peu à la manière de Paper Mario. Où les combats au tour par tour sont agrémentés de sortes de Quick Time Event. C'est des Quick Time Event en fait si vous voulez, c'est des espèces d'événements qui arrivent en plein milieu du combat. Par exemple on se fait attaquer. Et on peut esquiver tout simplement en appuyant sur le bouton pour sauter. Alors ça utilise des réflexes, ça utilise un petit peu la stratégie, tout ça. C'est vraiment très 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 agréable à jouer. Le scénario est très drôle, très second degré. Les mimiques des personnages sont vraiment extra. On a Luigi qui pleure tout le temps. Enfin, les caractères des persos sont vraiment poussés à leur maximum. Ça devient vraiment de la caricature, mais c'est vraiment agréable à jouer. Donc voilà, on pouvait aussi rapidement parler de Mario Superstar Saga et donc voilà, donc là on va passer un des derniers Mario à être sorti, d'ailleurs le dernier sur Wii. Je pense que Xen va pouvoir nous en parler puisque ça serait plus judicieux puisqu'il a fait le test sur le site. Donc on va parler de Super Mario Galaxy. Vas-y Xelan.
J'ai oublié chose aussi. Alors j'ai oublié de dire que
d'accord, donc
Mario
c'est pour ça qu'on le connaît mal.
Super Nintendo ne fut sorti qu'au Japon et en
Asie. Vas-y Xelan.
Alors Mario Sunshine, c'est encore une nouvelle innovation dans la série. C'est-à-dire que cette fois, vu qu'on ne peut plus faire vraiment d'innovation dans le gameplay principal
d'accord.
du personnage, on a décidé de changer l'univers. C'est-à-dire que plutôt on a fait l'univers merveilleux de Mario Bros et compagnie. Maintenant on change. On passe à un univers dans l'espace. C'est-à-dire que Mario, maintenant, affronte la gravité. Alors ainsi, on peut se déplacer, on se retrouve à l'envers, on est propulsé, il y a des étoiles qui nous transportent de planète en planète. Ça aussi, on rajoute des nouveaux personnages, notamment Harmony, donc, qui est un personnage assez important, vu qu'elle prend aussi sa place dans Mario Kart.
D'accord.
Et donc, qui est un des personnages principaux de l'histoire. Niveau scénario, c'est à peu près comme d'habitude, c'est-à-dire
encore
que Peach a été prise par Bowser et donc Mario va devoir la retrouver.
D'accord.
Encore, oui, comme d'habitude. Et donc Mario va devoir la sauver. Il faut savoir qu'il y a 120 étoiles à récupérer, c'est-à-dire comme dans Mario 64, et qu'au bout de ces 120 étoiles, on débloque Luigi, qui est différent de Mario par son gameplay. Donc pour une fois, dans un Mario en 3D, on a Luigi avec un gameplay différent. Depuis Mario 64 DS, ça n'avait pas été fait en fait. Donc sur console de salon, c'est la première fois. Faut savoir, Luigi est un peu plus rapide, il saute plus haut, mais il glisse sur le sol à moitié.
D'accord.
Il glisse un petit peu.
Alors, je pense que Mario nous réserve franchement un avenir assez glorieux, de par son passé qui a su tout le temps évoluer et qui a su apporter ses nouveautés à chaque jeu. Je pense qu'on a vraiment un avenir avec Mario au niveau vidéoludique, au niveau gameplay général, au niveau nouveautés. Enfin bon, on est sûr que Mario nous fera toujours des bons jeux. Il y a eu très peu de boosts dans les jeux Mario, il y en a eu, mais il y en a eu très peu. Et avant de finir ce podcast, je voudrais poser une question à chacun. Si vous ne deviez garder qu'un jeu Mario, un seul, lequel choisiriez-vous et pourquoi celui-là? Alors je vais commencer par Sabaka.
Alors moi, si je devais en garder un, ce serait probablement Super Mario Bros. 2 The Lost Levels. Parce que c'était probablement un qui a le plus révolutionné l'univers des jeux Mario, du fait de sa difficulté et de ses grands ajouts, surtout des ennemis. Il y a eu par exemple aussi l'ajout du champignon qui fait rétrécir. Enfin, il y a eu énormément d'ajouts par rapport aux autres Mario. Et malgré les graphismes, c'est vraiment un gameplay presque millimétré, si on pourrait dire. Ne serait-ce que si vous éternuez pendant une seconde quand vous faites votre saut, vous êtes complètement foutu. C'est-à-dire qu'il est de bonne difficulté, on est bien embêté lorsqu'on y joue, donc forcément, moi, je dis, c'est celui qui a une très longue durée de vie, et forcément, moi,
okay.
Je me,
si je Techno bien, Boy, si tu devais en garder qu'un, ça serait lequel?
Bah, moi, ça serait Mario Party 1, parce que les soirées entre amis, j'en ai fait des tonnes avec ce jeu, et ça me rappelle trop de bons souvenirs devant
d'accord.
la 64 à se battre.
Xelash, si tu devais en garder qu'un?
Sans hésiter, Mario 64, sur la console du même nom. Ça a posé les bases en fait de tous les jeux 3D qu'on retrouve plus tard. Donc.
D'accord.
Et c'est le jeu en fait de mon enfance.
Et
donc,
Luigi, voilà. Si tu devais en garder qu'un,
je choisis. Un grand titre.
Alors si je devais en garder un, ça serait plutôt Super Mario Bros 4 version US, car en fait il y a des niveaux inédits au jeu en utilisant le e-reader, qui est un lecteur de cartes, et on a accès à de niveaux inédits. Mais aussi d'ajouter des trucs
D'accord, je crois qu'on t'aura compris, Luigi.
Bon, enfin.
Tu aimes bien le jeu, apparemment. Et bah, pour ma part, si je devais en choisir qu'un...
C'est explicite.
Et pourquoi, ça serait Mario Kart Double Dash, alors même si c'est pas vraiment un Mario... Je garderai celui-là. Alors pourquoi? Parce que le multijoueur est vraiment très fun. Parce que j'ai acheté au départ la GameCube... uniquement pour ce jeu. Alors je suis pas du tout fan de Mario, hein. Je suis plus Sonic, mais Mario en plateforme j'aime bien, mais j'ai jamais vraiment adoré au point d'acheter tous les jeux Mario. Il y en a beaucoup auxquels j'ai pas joué, mais le Mario Kart, c'est vraiment un concept. Je félicite vraiment les créateurs, parce que surtout le double dash, parce que la gestion du copilote est parfaite. C'est vraiment un jeu sur lequel je m'amuse même en solo. C'est-à-dire que l'IA des participants non contrôlés par des joueurs sont vraiment intelligents. Ça nous arrive vraiment de se faire vendre, excusez-moi du terme, mais des coups de pute par l'IA du jeu. Donc ils sont très très vicieux et j'adore.
Oui, ils sont vicieux.
Hein. C'est franchement et le jeu en plus pour l'avoir fini à 100% est vraiment complet, on s'ennuie pas une seconde. On a tout le temps envie d'y rejouer, on rate une coupe, on finit dernier, c'est pas grave, on va la refaire jusqu'à ce qu'on arrive premier, c'est addictif, c'est tout ce que j'aime dans un jeu vidéo, c'est exactement ça. Les créateurs ont réussi à me faire vraiment adorer le jeu, alors que au départ, je n'étais pas fan de la série Mario. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les Mario Kart sans forcément aimer les jeux de plateforme Mario. Donc c'est vraiment une prouesse. Donc voilà, si quelqu'un voulait ajouter un dernier détail sur la série.
Oui, moi. Là, ce serait juste pour pousser un petit coup de gueule quand même. Je trouve ça dommage en fait qu'ils ont abandonné le concept
c'est vraiment dommage.
Bécane dans Mario Kart Wii en fait.
Oui, c'était un bon concept, mais il fallait pas le conserver trop longtemps, ça aurait trop lassé les joueurs. Et apparemment, certaines personnes
c'est dommage parce que
ce système-là, c'était un petit peu trop technique, donc on a simplifié le jeu à mort.
D'accord, mais c'est dommage parce que le système de copilote, on pouvait aussi bien jouer sans, c'est-à-dire ne pas forcément changer de pilote, et c'était aussi facile de jouer sans utiliser son deuxième pilote que de jouer à Mario Kart classique où on n'avait qu'un seul pilote. Après, c'était désavantageux. Mais il est tout de même possible de jouer avec une seule arme, et je vais te dire, que même ça m'arrive des fois de faire des parties, d'oublier que je suis sur double dash et forcément de pas changer de pilote. Après, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est d'autant plus facile de jouer avec deux pilotes qu'un seul. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur Mario. Ça va être la fin de ce podcast. On va se retrouver la semaine prochaine, alors avec normalement un podcast Sega. Donc je remercie tous les rédacteurs qui ont participé à ce podcast. Ça a été un petit peu laborieux, mais on a quand même réussi à le faire. Donc je remercie aussi le rédac chef Xelan qui a assuré sur la préparation et tout. Et on remercie aussi l'invité Luigi Blood d'avoir participé à ce podcast, qui a quand même éclairé nos lanternes malgré un petit peu de difficulté à l'oral. Il s'est quand même bien démerdé, donc oui, on peut le féliciter. Et moi je vous dis à bientôt. Inscrivez-vous sur le site, ça nous ferait vraiment plaisir. On a besoin de membres, on a besoin de vous. La communauté est là sur le forum, ça discute. On essaie de créer un truc vraiment intime, donc n'hésitez pas à vous inscrire et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.